Quoi, Robert?
Bonjour, Alexis.
Retour au travail. Hein?
Ben oui.
On a continué à la maison, on le fait ailleurs, on continue à la maison. On ne sait plus où on travaille, mais on travaille tout le temps.
Pas mal tout le temps, ouais. C'est ce que ma femme me dit.
Hey, on a un invité, déjà des sujets intéressants aujourd'hui, mais j'ai très hâte de parler à un invité qui est avec nous. Vous êtes là, M. Charles-Éric Lavrie?
Oui, je suis bien là. Merci de m'accueillir.
Sujet fascinant que ce café de la Maison Ronde. Alexis adore ce sujet-là aussi.
Oui, je pense que la réinsertion sociale, c'est super important pour justement trouver se sortir de nos dépendances d'un point de vue personnel puis éventuellement d'un point de vue collectif. Je pense que où est situé ce café-là, c'est quand même un lieu important pour les
bon,
personnes.
Bon, alors, il est situé où, M. Lavrie?
Il est situé au Square Cabot. Donc, effectivement, c'est un lieu quand même qui, pour des raisons, je dirais très souvent, qui sont un peu malheureuses, là, un peu emblématiques de l'itinérance autochtone. Il se passe quand même des belles choses, mais c'est vrai, comme vous avez vu avec le décès dernièrement, là. Donc, c'est ça. C'est malheureusement, on dirait que c'est toujours là où on voit dans les médias qu'il y a des choses.
Ouais, c'est déjà un carrefour des Autochtones, parfois en besoin, en itinérance à Montréal.
Oui. Donc, c'est au Square Cabot, à Montréal.
Le café, la Maison Ronde, à quoi ça ressemble finalement? Regarde, j'y ai jamais été. À quoi ça ressemble?
En fait, ça ressemble à, je dirais, pas grand-chose. Il ne faut pas se fier aux apparences, dans la mesure où c'est une Vespasienne. Donc, c'est un immeuble, en fait, patrimonial qui appartient à l'arrondissement, à la ville de Montréal. Donc, c'est une ancienne toilette publique et ça a été réaménagé, là, à un moment donné, en 2014-2015, le Square Cabot a été réaménagé. Et puis, dans ce cadre-là, en fait, la Vespasienne s'est un peu transformée en café d'inclusion Donc, le projet, le café, a démarré à ce moment-là, puis ça a été porté par l'itinéraire, géré par l'itinéraire, qui est toujours le cas d'ailleurs.
C'était une idée au départ de la ville de Montréal ou de l'itinéraire
avec
ou des itinéraires?
Avec le réseau, il y a un réseau à Montréal là, qui des organismes autochtones, qui inclut autant des organisations autochtones, communautaires. Donc, c'est vraiment le réseau, là, on parle d'employabilité, d'itinérance vraiment au complet. Puis, tu sais, c'est quand même l'interlocuteur ou un partenaire très important à Montréal, là, c'est sûr et certain, là, en termes de tout projet qui concerne la communauté autochtone. Et puis, à l'époque, là, je ne vais pas nécessairement rentrer 100% dans les détails, là, mais quand même, c'est un projet qui est porté par l'itinéraire. Donc, l'itinéraire avait une expertise en termes de réinsertion, d'inclusion, empowerment, etc.
Vous avez parlé des anciennes Vespasiennes. J'espère que ça ne ressemble plus du tout à des Vespasiennes.
Ah, ben... je dois dire que c'est à son charme, c'est tout petit, là. Honnêtement, c'est tout petit. Ça nous occasionne des défis de logistique quand même assez importants. Là. Comme là, d'habitude, on n'est pas ouvert. Là, on est ouvert parce qu'on veut que le programme se poursuive. Donc, on est ouvert. D'habitude, on ferme un café estival de mai à octobre. Là, on est exceptionnellement cette année à cause des besoins, parce que les partenaires autour de nous souhaitent que le café demeure ouvert, la ville de Montréal, bien, on veut relever ce défi-là. Mais je dois dire que c'est quand même tout un challenge s'assurer qu'un endroit comme ça puisse demeurer ouvert et maintenir ses opérations.
Ça fait
avec la neige, avec le gel, etc.
Ça fait combien de temps que vous êtes en service?
On est ouvert, le premier été, c'était l'été 2015. Et puis, c'était vraiment un tout petit projet. Là. C'est comme n'importe quel projet, ça commence, puis tranquillement, ça se construit, ça se développe. Je suis vraiment fier de où on est en 2021. C'est sûr que la pandémie n'a pas été facile. On n'a pas ouvert en 2020 là, toutes les raisons que les gens se doutent là, en termes de capacité. Le café est tout petit. Puis au Square Cabot, il y avait beaucoup en fait de mesures d'urgence. Là. Donc on voulait certainement pas prendre la place de tout ce qui était mis de l'avant pour les mesures d'urgence pour la population autochtone au Square Cabot. Donc on s'est un peu retiré. On a aidé d'une autre façon. Mais là, on est ouvert. Puis moi, personnellement, je suis vraiment fier de comment le café est devenu. Là.
La clientèle de ce café-là, c'est surtout des Autochtones, des non-Autochtones, des personnes, les gens d'affaires qui se promènent dans ce coin-là?
Ben, je dirais que c'est très diversifié dans le sens où le café a une mission sociale avant tout. le café, de toute façon, n'a pas la capacité, mais c'est pas un projet qui se veut un projet où le but, c'est de faire de l'argent. C'est sûr, inévitablement, ben, comme toute organisation, comme tout projet, ben, c'est sûr qu'on a un budget puis on veut pas que le projet soit déficitaire. Mais tu sais, le but, c'est pas de générer un profit astronomique. C'est plus le volet social. Puis en fait, ce qui importe, c'est plus la relation entre la clientèle et les personnes autochtones qui travaillent, donc des participants qui participent à un programme, donc des personnes itinérantes, autochtones en situation de différence ou qui sont dans une démarche d'employabilité. Donc, c'est vraiment le cœur du projet, là, c'est le café comme un prétexte.
Qu'est-ce qu'on offre aux usagers? On leur offre un café. Est-ce qu'ils peuvent manger, simplement se mettre à l'abri? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage?
Oui, donc en fait, c'est un projet très complexe, là, parce que les besoins sont complexes. Donc, nous, on a une partie où on offre du soutien alimentaire, comme il y a quand même un besoin, là, de besoins primaires, là. Donc, on utilise plein de façons dont on le fait. On a une carte repas qu'on distribue à des intervenants de nos organismes partenaires, notamment chez Doris, Résilience Montréal, le Foyer pour femmes autochtones, Projet autochtone du Québec. Donc, en fait, eux, ils distribuent des cartes repas aux personnes avec lesquelles ils interviennent dans la rue ou bien en général. Puis ces personnes-là ont accès à un repas gratuit à notre café. Donc ça, c'est un peu une façon qu'on a de contribuer. Donc inévitablement, je veux pas dire client, j'aime pas ce terme-là, là, mais des personnes qui viennent fréquenter le café, c'est sûr qu'une bonne partie, c'est des personnes autochtones. C'est pas 100% lui, mais c'est sûr que vu qu'il y a un volet social, ben c'est des personnes autochtones qui sont en situation de différence, qui ont besoin de nourriture. Et c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose pour lequel on est sensible puis que ça nous tient à cœur de maintenir ça. Tu sais. Donc ça, c'est certainement une partie de la clientèle.
Est-ce qu'on leur offre de la nourriture qui ressemble un peu à ce qu'ils pouvaient trouver dans leur communauté, des fois?
C'est sûr qu'on peut pas recréer à 100%. C'est un café de rue.
Mm-hmm.
On va pas créer sur les toits qu'on est le seul café autochtone à Montréal. Je pense vraiment que par rapport à la communauté, il devrait avoir davantage de lieux où c'est spécifiquement dédié à la promotion de la culture puis de la cuisine autochtone, c'est sûr et certain. On n'est pas une organisation autochtone, donc c'est sûr que notre but premier, c'est pas de faire la promotion ou de la culture culinaire autochtone, tu sais, parce qu'on a des enjeux aussi de capacité. Donc essentiellement, ce qu'on sert, c'est ce qu'on pourrait retrouver dans les powwows, des Indian Taco que tout le monde connaît pas mal, tout le monde qui ont fréquenté des powwows, donc un peu des variantes.
De la bannique, par exemple?
Exactement ça, de la bannique. Ouais, c'est quand même, la bannique, c'est quand même possible à cuisiner. On a un petit four qui n'est pas idéal, mais bon, c'est quelque chose qui est possible. C'est quand même, on retrouve tout ça.
Vous disiez, Monsieur Lavry, vous disiez qu'il y avait aussi d'autres personnes que les Autochtones qui fréquentaient le café. Est-ce que la communication, le rapport entre les Autochtones et les autres qui fréquentent le café, ça se passe bien?
Ouais. Ben moi, je dirais que ça se passe surprenamment bien, dans le sens où c'est sûr que c'est le but du projet. C'est sûr que nous, on met de l'avant le projet de cette façon-là. Quand on fait de la promotion, on fait la promotion du menu puis ce qui est servi, mais avant tout, on fait aussi la promotion du projet de sa façon plus globale, c'est plus générale, son volet social. Donc, quand les gens fréquentent le café, d'une part, ils le fréquentent parce qu'ils connaissent le volet social, puis ils sont là pour en apprendre davantage sur les participants, sur les enjeux d'itinérance, la communauté autochtone, etc. Donc, ce volet-là. Et puis aussi, si jamais la personne vient comme ça par hasard, il y a des condos qui sont construits à proximité, donc il y a beaucoup d'employés de la construction qui sont des clients, et puis des employés aussi de la STM. Mais c'est sûr que nous, notre mandat, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, nous, on va de l'avant pour que, justement, ça se passe bien, puis qu'il y ait un échange, puis que la personne soit sensibilisée à la réalité, non seulement le programme du café, qui est un beau programme, mais aussi la réalité plus générale, tu sais, pour un peu favoriser ce qu'on appelle la réconciliation puis la construction de ponts entre les communautés. Donc, honnêtement, ça se passe super bien. Les gens sont très intéressés, très interpellés, puis ressortent, tu sais, oui, ils consomment de la nourriture, mais je pense qu'ils ressortent de là avec beaucoup plus que juste la nourriture.
Monsieur Lavry, on va prendre une petite pause. On vous revient après la petite pause.
Ça marche. Merci.
So far from home, I can't leave now. I have to let it go. I have to get it out. I felt the wind. Yes, I heard him.
I'll go where I wanna go. I'll be who I wanna be.
Nous écoutions Nite Aniame Namiwin de Mikon Nikwe, Ottawa. Donc, de retour avec M. Lavery. Moi, je me posais une question relativement au fait que c'est une entreprise de réinsertion sociale. Est-ce qu'on a certaines histoires qui montrent qu'il y a eu une réinsertion sociale avec ce café-là?
Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'on, tu sais, avant tout, on n'est pas un organisme autochtone. Donc, mm-hmm. c'est sûr que je peux partir du point A, là, qui est vraiment l'écoute. La sensibilité, la compréhension, toujours consulter, puis être en lien, être en partenariat avec des organisations qui le sont et qui sont, tu sais, qui connaissent les réalités des communautés, qui interviennent déjà auprès des personnes, parce que c'est des personnes autochtones en situation d'itinérance. À la base, l'itinéraire n'avait aucune expérience en la matière. Donc, je pense quand même que je veux quand même dire que la réinsertion ne serait jamais possible sans ces approches-là qui sont faites depuis le début, puis sans des liens qu'on entretient, puis qu'on entretient toujours avec des organisations autochtones qui sont en proximité, comme chez Doris, le Foyer pour femmes autochtones, qui sont des partenaires hyper importants. Donc, tranquillement, on a construit le projet, et puis on est arrivé quand même avec une démarche, avec un programme qui est quand même unique, honnêtement. L'employabilité autochtone, des personnes autochtones en situation d'itinérance, là, il y en a malheureusement vraiment pas beaucoup mm-hmm. à Montréal. C'est quelque chose qu'on voit. Puis aussi, on avait des conversations avec Adrienne Campbell, qui est la commissaire à la réconciliation par intérim, puis elle disait vraiment c'est ce que la maison ronde vient combler comme vide. Donc, c'est sûr que cet aspect-là nous tient à cœur. Puis on a vraiment des belles histoires où il y a des personnes autochtones qui étaient à risque d'itinérance, qui ont commencé à travailler au café. Puis on a deux volets. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça prendrait pas des heures, mais ça prendrait longtemps. Donc, elle commençait à faire des quarts de travail, puis tranquillement, elle a embarqué sur un autre volet qui est un programme à plus long terme. Puis finalement, là, on a une participante qui s'appelait Amanda qui, à la fin, s'est trouvée un emploi comme navigatrice à Médecins du Monde. Mmh. Donc, c'est vraiment des histoires inspirantes parce que sans ce programme-là, tu sais, ce qu'on reçoit des témoignages, c'est que les personnes n'auraient pas pu avoir accès et avoir la confiance de s'engager dans une démarche ou de se trouver un emploi, tu sais, qui convient aussi à leurs besoins. Tu sais, elle est une navigatrice, elle a toujours voulu être intervenante auprès des personnes autochtones, elle n'avait pas la confiance. Elle sentait qu'elle n'avait pas les compétences, etc., mais elle avait certainement la volonté. Puis le programme lui a permis de développer cette confiance-là en elle pour s'engager dans la démarche puis faire ce qu'elle voulait faire, tu sais, au départ. Donc, c'est pas n'importe quel emploi, là. C'est un emploi qui est sensible à la réalité culturelle et qui convient aussi, tu sais, aux besoins, à la totalité de la personne, tu sais. Donc, c'est pas juste un job pour une job, disons.
Puis le financement pour, comme on en a parlé souvent, oui. que c'est difficile le financement pour les organismes en itinérance, en particulier pour les oui. organisations qui aident les personnes en situation d'itinérance autochtone. Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher le financement puis de s'assurer d'une pérennité de ce financement-là pour la Maison Ronde?
Bien, moi, je dirais juste que c'est toujours difficile. T'sais, malheureusement, ça fait partie de la réalité en tant qu'organisme communautaire. Puis, c'est quand même quelque chose que je pense que c'est important de mentionner, que c'est difficile d'avoir du financement juste pour avoir du financement. On peut pas juste dire... on ne peut pas juste dire hey, notre mission, etc., notre projet. Malheureusement, il y a une très grande précarité, une incertitude par rapport à du financement qui nous empêche d'assurer une pérennité. Le financement fonctionne beaucoup par projet. Fait que je dirais c'est toujours difficile. Honnêtement, que ce soit à l'itinéraire, que ce soit pour la Maison Ronde, dans sa globalité, c'est un stress qu'on vit à chaque année. T'sais.
C'est beaucoup de paperasse souvent. Hein?
Qu'on soit juste pour notre mission est vraiment minime par rapport à ce que ça devrait être.
Puis tout le temps que vous mettez en paperasse doit être considérable aussi, oui. la reddition de compte, oui. S'assurer...
Effectivement, mais je dirais que ce que je constate, après ça, c'est moi qui constate ça, t'sais. Peut-être d'autres pourraient dire autre chose, mais ce que je constate, c'est quand même que ça change, que surtout au niveau autochtone, je pense quand même qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui souhaitent se mobiliser et qui souhaitent s'engager réellement positivement, tu sais, pour la communauté. Puis là, je parle pas seulement des organisations autochtones, mais aussi d'autres organisations qui souhaitent authentiquement s'engager dans cette démarche-là parce qu'ils deviennent de plus en plus sensibles. Fait que j'ai tendance à dire que c'est de mieux en mieux.
Est-ce qu'il a fallu le décès de Raphaël André, Monsieur Raphaël André, ou le décès dernièrement de Mme Potokok pour en arriver là?
Ben, j'espère que non. C'est ce que je dis. J'espère que non. J'espère que ça prend pas des décès pour que les gens bougent ou que les choses changent. Moi, je constate quand même qu'il y a quand même des choses qui changent au-delà des décès. Je pense qu'il y a quand même des consciences qui s'éveillent de plus en plus, honnêtement. Mais tu sais, je pourrais pas dire. Malheureusement, c'est sûr que pour certaines personnes, oui. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même un changement tu sais, un changement positif là, qui est en train de se faire. Là. Puis j'ose croire va se poursuivre parce que les besoins, parce que c'est quand même une situation urgente et alarmante, comme les décès le témoignent. T'sais.
Lors de la cérémonie souvenir là, pour Élisapie et Potokdok, il y a Justin Picard qui a souligné le contraste. Moi, j'ai beaucoup aimé son énoncé, si on veut. Il a fait un rapport entre la construction de condos, tout à fait à côté, à proximité du square Cabot, et les Autochtones qui n'arrivent pas à trouver un toit pour dormir l'hiver. C'est quand même incroyable quand on regarde les deux réalités, là.
Oui, en effet. Je suis d'accord. C'est sûr que c'est tout un contraste. Je sais pas comment ça va se passer quand en fait ces condos-là vont être habités. Là. Parce que je m'en rappelle que quand le Square Cabot a été réaménagé, en fait, l'un des objectifs du réaménagement, c'était de transformer la dynamique où des personnes fuyaient le Square Cabot. Parce qu'il y avait de l'itinérance autochtone. Et puis, les perceptions, les préjugés étaient très forts. Donc, tu sais, ils disaient que les personnes étaient des personnes toxicomanes, etc. Donc, tu sais, tout était très négatif. Puis le réaménagement s'est fait dans l'esprit de transformer ça. Donc, notamment le café de la maison, où les personnes autochtones pouvaient avoir un rôle positif et montrer aussi un rôle positif pour permettre aux gens de changer leurs préjugés, tu sais. J'avoue qu'avec tout ce qui se fait, je me demande comment ça va se passer, tu sais. Comment vont se passer les interactions entre ces personnes-là puis les personnes autochtones qui sont au Square Cabot, pour qui, honnêtement, c'est une maison, là, c'est leur chez-soi là, à Montréal. Je me demande comment ça va se passer.
Le danger reste présent. Hein, quand on a un condo neuf puis qu'on a un beau square devant, on ne voudrait pas voir des itinérants dedans. Je suis certain que ça va se passer.
C'est ça. C'est pas juste au Square Cabo. C'est sûr que des enjeux comme ça de cohabitation, il y en a, comme on l'a vu dernièrement au parc Milton. Il y en a au parc Émile-Gamelin. Il y en a partout, tu sais. Malheureusement. Après ça, nous, à l'itinéraire, puis le café de la maison, je dirais, une de notre mission, c'est justement de transformer ça pour que les échanges se fassent positivement et qu'il y ait des ponts qui se construisent entre les communautés, tu sais. Parce qu'il y a toujours du travail à faire à ce niveau-là.
Des cafés comme la Maison Ronde, j'imagine qu'il en faut plus qu'un pour aider toutes les personnes qui sont en situation.
Il en faut plus qu'un, effectivement. On a certainement eu plusieurs approches de personnes qui ont vu le café de la maison en se disant « Wow, c'est tellement beau comme projet, un café de réinsertion sociale qui est établi de cette façon-là. » C'est assez rare à Montréal, au Québec, puis je dirais même au Canada. C'est sûr que moi, je dirais que ça n'en prend plus. Puis si l'itinéraire peut inspirer d'autres à suivre cette voie-là, c'est sûr que la société ne s'en portera que mieux, effectivement, c'est sûr.
Merci beaucoup, Charles-Éric Lavrie, directeur du développement de l'impact social pour le groupe d'itinéraires responsables du Café de la Maison. On a un sacré beau projet. Bravo, au Square Cabot à Montréal.
Kitimigwetch.
Merci, gentil. Merci à vous de m'avoir accueilli, Alexis et Robert.
On va écouter Infini du nouvel album de Natacha Canapé-Fontaine et on vous revient après la pause de la demi-heure.
Nous sommes des milliers à marcher sur les mers. nous avançons pour notre passage. My boat on the river, I need to go down, I need to calm down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the water, it eases me down. Touching me gently, the waters that flow as my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore.
Écoutez, Kwe, bonjour.
Oui, Robert, donc, parlons nouvelles.
On était silencieux parce qu'on voulait voir si on allait gagner un prix du gouverneur général. On n'a pas gagné.
Moi, je pense pas que je suis admissible à ce prix-là. Toi, Robert, tu es un écrivain.
Ouais.
Ça pourrait t'arriver un jour.
Je suis bien occupé. on va venir d'ailleurs à l'histoire des prix du gouverneur général, parce qu'il y a Florent Volant qui en a gagné un.
Ben oui.
On est très content pour lui. Mais on va d'abord parler un petit peu dans la première demi-heure de ses funérailles, en fait, ses cérémonies souvenirs pour Elisapi Potoglou, qui est morte pas loin du Square Cravotte. Tu veux m'en parler un peu?
Ben, c'est d'une tristesse infinie. Hein? Encore une fois, une personne autochtone en situation d'itinérance qui est décédée au froid. C'est arrivé l'année passée, ça arrive cette année. On en parlait avec Michel Jean aussi. Hein? La mort rôde toujours proche. On n'est jamais trop loin d'un décès. Je me demande c'est quoi que ça va prendre pour qu'on donne juste un petit peu de dignité à ces personnes-là. C'est quoi que ça va prendre pour que la tente chauffante qu'on avait mise en place l'année passée puisse être là toute l'année? Est-ce qu'on va la remettre en place cette année? Moi, j'ai pas entendu parler de ça.
Moi, j'ai l'impression que ça va d'initiative en initiative. On les met au monde, ça meurt. Après ça, il faut se battre pour en avoir une autre. Il n'y a rien de continuel.
Ben, c'était une des conclusions du rapport Vien par rapport à comment on agit avec les organismes autochtones. C'est qu'on y va avec des projets qui fonctionnent souvent bien, qui donnent des bons résultats. Puis on en parlait avec notre invité précédemment. la pérennité de ces projets-là, c'est tout le temps quelque chose de difficile. Puis pour avoir travaillé un peu dans le communautaire, puis avoir travaillé dans des conseils de bande où je mettais en place justement des formations pour permettre aux gens de pouvoir accéder au marché du travail, on est tout le temps dans cette dynamique-là de projet par projet, d'aller gratter les fonds de tiroir des ministères, de demander des subventions aux députés, et c'est très, 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 très difficile, là. Donc, les organismes comme les centres d'amitié, les organismes communautaires qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance ont tout le temps ce mandat-là d'aller chercher des fonds quand ils pourraient prendre ce temps-là pour s'occuper des personnes qui ont besoin d'aide.
C'est comme si ils voulaient toujours colmater des fuites après fuites, puis on se donne pas la peine de changer la chaudière de temps en temps. Infini la chaudière, changez-en là.
Ouais, puis pourquoi on pourrait pas juste avoir un bon montant? On dit ça, c'est une enveloppe pour faire cette mission-là. Et
on a l'impression qu'à chacun de ces projets-là, on a l'impression que ce projet-là va tout régler. Après ça, il n'y aura plus de problème. Le problème va rester, ça va durer des années. C'est un problème de civilisation, de géopolitique. Ça ne se règle pas du jour au lendemain.
Puis on donne un peu d'argent pour se donner bonne conscience.
Et l'autre problème, c'est un problème moral et de perception sociale. On ne choisit pas, chez les Autochtones comme chez les Blancs, les Allochtones, on va les appeler comme vous voulez, là. On ne choisit pas d'être itinérant et de souffrir.
Il y a quelqu'un qui me disait qu'on est à 5 ou 6 mauvaises décisions dans nos vies pour être itinérant, être une personne en situation d'itinérance. Donc, ça peut arriver à tout le monde.
Je ne vais pas aller dans trop de détails, mais je vais donner un exemple. J'ai eu un jour, la compagne de mon fils, mm-hmm. et qui a amené présenté son père qui était avocat. Et son père avocat, un jour, s'est retrouvé itinérant pour 2 ou 3 ou 4 mauvaises décisions.
Ouais.
Ça arrive. On parlait d'autre chose de plus... On parlait du gouverneur général, parlons-en. Oui. Florent Volant, tantôt cardinal, lauréat du prix du gouverneur général. Ça fait plaisir, là.
Ben, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance de longues années de carrière.
Oui, parce que c'est pas pour un projet précis, c'est pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait. Ouais, ouais.
Puis moi, je pense particulièrement à Florent Volant. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, c'était le modèle musical. C'était celui-là qui me permettait d'entendre de la musique en langue autochtone à la radio. Malheureusement, la crise d'Oka, il y a eu du racisme par rapport à ça. Cashtin était sur sa lancée, puis était number one dans les stations de radio privées. Puis
après, même en Europe.
Puis malgré tout, après ça, Florent Volant a continué à faire voir sa culture. Puis on en parlait la semaine dernière avec Scott Ian Picard. Il l'a dit, c'était grâce à lui en grande partie, puis grâce à Cashtin, que sa carrière, puis on voit tant d'Innu avoir une carrière en musique.
Au moment où on enregistre cette émission, on l'enregistre le jeudi, il n'y a pas de secret mm-hmm. là-dedans, là. Il y a un grand rendez-vous à Montréal. C'est quoi cette histoire de rattrapage réconciliateur, grand cercle économique des peuples autochtones?
Ben, c'est un sommet économique pour permettre, entre autres, du réseautage chez les Premières Nations. On dit qu'il y a certaines clés qui vont permettre justement aux Premières Nations de pouvoir se sortir du lien de dépendance qu'on peut avoir avec puis du lien fiduciaire qu'on a avec la couronne fédérale. Entre autres, c'est l'économie, d'avoir nos propres moyens économiques. Puis on le voit, entre autres, avec une communauté comme Espit, qui développe année après année des projets économiques, des projets d'écotourisme, des projets pour pouvoir permettre d'accueillir des gens. Ben, ces fonds-là, ces développements économiques-là, quand on réussit justement à faire en sorte qu'on ait des individus qui puissent avoir cette autonomie-là, puis éventuellement ça permet d'avoir des nouveaux revenus pour les communautés, ben ça permet aux communautés de dire « bon, ben moi, ce projet-là, j'ai envie de le faire ». On le voit, le développement économique à Kanestaka, on en parlait la semaine dernière, excusez-moi, à Kanawagé, permet à la communauté d'investir par soi-même dans son logement, d'investir dans son système de justice. Donc, en ce moment, dans le système libéral dans lequel on a besoin d'argent pour pouvoir avoir une indépendance, une autonomie. Ça fait que c'est sûr que le développement économique, ça en fait partie dans le système dans lequel on est en ce moment.
Dans les chemins de la sagesse, on sait depuis longtemps que pour travailler sérieusement, il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est un peu ce qu'a fait Daniel Sioui dans son dernier livre, là, L'Indien stoïque. Hein. 80 pages.
80
c'est
pages.
Très drôle, c'est amusant, mais il va pas par quatre chemins pour vraiment s'indigner sur tout les problèmes autochtones.
Non, mais on va se garder une petite réserve avec M. Sioui. On va le recevoir éventuellement.
Moi, j'ai hâte de le recevoir. Oui. Mais si vous avez une chance de lire ça avant, Indien stoïque,
oui,
qui vient de sortir.
Un tout petit livre de rien du tout, petit un petit carré en plus.
Mais c'est vraiment amusant. Puis ça vaut la peine.
Sky. There's nothing I could do to stop you. It seems like yesterday that I saw your face. Couldn't get you out my mind since you left. If only I knew another day, I would hold you in my arm and take the pain away. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. And it's so hard to say goodbye when it comes to this, when you only think deep, no. Cause even today, I don't understand. How could it happen so fast? How could it happen to you? If I could have one day, tell you how much I missed you, and I believe one day, I'll see your smile shining in the sky. Oh, little star, falling from the sky, there's nothing stop you from shining. If only I knew another day, I would hold you in my arm and take the pain away. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. And it's so hard to say goodbye when it comes to this, when you won't let. Cause even today, I don't understand. How could it happen so fast? Cause you shouldn't have left so soon. Holy star, falling from the sky, there's nothing I wouldn't do to have you by my side. Cause even you're not there, I know somewhere far away from here, you're listening.
C'était Little Star de l'artiste One Dat Kayara Gros-Louis.
Gros Louis, mais il y a plein de ces oui partout dans ce monde autochtone-là. Hein? Il y en a toujours un quelque part. Je pense qu'il y en a un en face de moi quasiment.
Ouais, ben je fais aussi si oui. Ouais. Ma mère, c'est Christine Si oui, Wawanaloat, après tout.
On parlait d'un si oui il y a 10 minutes. Puis là, on va parler de mon oncle Jules. Mais mon oncle Jules, c'est un si oui aussi. Puis celui qui en parle, ben c'est un si oui aussi. Jules, c'est oui, bonjour.
Bonjour, ben là c'est Jocelyn Sioui, un autre fatigant de Sioui.
Ah oui, parce que l'oncle c'était Jules, vous c'est... il y a trop de Sioui, c'est tout.
Il y en a trop, puis on dit tout à peu près la même affaire. Non, c'est pas vrai.
Oui, mais vous vous dites de façon particulière, parce qu'ils n'ont pas toute une marionnette les autres là.
Non, exactement, je pense que je dois être le premier Sioui à manipuler des marionnettes.
Qu'est-ce qui vous a pris de manipuler des marionnettes, vous?
Ah, c'est venu à moi, tout simplement. Hein. C'est venu comme ça dans ma vie parce que je trouvais que parfois les moyens ne me permettaient pas de faire ce que j'avais dans ma tête. Fait que j'ai commencé à intégrer des objets puis des marionnettes. Puis à un moment donné, on m'a dit, mais t'es marionnettiste, toi? Je fais non. Moi, je fais de la mise en scène, j'écris, mais j'ai finalement réalisé que, en fait, c'est ça, c'est un univers qui me plaisait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis mal l'assumé pleinement, à le dire, ben oui, je suis marionnettiste, c'est ça mon monde.
Et à quoi ça ressemble, des marionnettes chez vous? Ben, sont petites, sont grosses?
Ben, ça dépend des spectacles. Tu sais, j'ai fait un spectacle à un moment donné, c'est une espèce de casque que je mettais sur ma tête qui était à l'effigie de M. Patate. Puis je racontais la vie de M. Patate. Donc, celle-là était plus grosse qu'une tête humaine, je dirais. Elle était plus grosse que ma tête. Parfois, comme là, dans le spectacle, mon oncle Gilles, je manipule souvent des formes qui ont l'air faites en papier ou en carton. En fait, c'est pas ça qu'on utilise, bien sûr, pour que ça soit durable, mais ça donne cette impression-là avec des imprimés dessus de photos noir et blanc. Puis j'utilise une caméra pour montrer ça sur des écrans. Donc, la marionnette prend différentes formes.
On est loin des marionnettes à fil, là.
Oui, exactement. La marionnette, moi, j'organise un festival de marionnettes à Montréal qui s'appelle le Ouf Festival.
Ça, c'est le plus beau nom de festival que j'ai jamais eu. Ouf!
C'est beau, hein? Mais justement, ça dit tout du festival parce qu'on offre la chance à des fois des gens qui ont peu d'expérience, d'autres qui ont beaucoup d'expérience. Puis des fois, tu dis ouf parce que c'est merveilleux. Des fois, tu dis ouf, il y a encore un peu de travail à faire. Mais on offre la chance de présenter le travail. Puis dans ce travail-là, souvent, toutes sortes de marionnettes, de théâtre d'objets, théâtre de papier.
Faut dire tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Ouf, ça veut dire Festival of Castelier.
Oui, c'est en fait le ouf. C'est une façon de dériver de dire le off. Puis on a fait une blague avec ça, puis c'est resté le nom du festival. Puis au fil des années, c'est fait une super belle réputation. Là.
On va parler un peu de mon oncle Jules.
Oui.
Donc, c'est un livre que vous avez fait. C'est aussi un spectacle documentaire qui vient parler de votre oncle, votre grand-oncle Jules, qui a voulu faire la circonscription des personnes, des hommes en 1940 pour la Deuxième Guerre mondiale, puis lui, il trouvait ça inconcevable qu'on nous demande qu'on nous envoie à la guerre, mais qu'on n'ait même pas le droit de vote.
Ben, c'est inconcevable aujourd'hui, puis ça l'était à l'époque, je veux dire, c'est l'affaire qui m'a fait le plus sursauter, puis ça m'a fait comprendre à quel point on m'avait pas enseigné la loi sur les Indiens. Puis, en fait, tout part de là, puis le combat de mon oncle ben, vient en réaction avec cette loi-là, c'est parti avec la conscription, mais en rassemblant des chefs à Ottawa la première fois en 1943,
ouais.
Il réalise que les problèmes sont beaucoup plus grands que ce qu'il avait imaginé lui-même, puis il réalise que dans les réserves, les gens souffrent beaucoup. Bon, à Wendake, c'était une chose à l'époque, mais là, il s'est mis à rencontrer du monde de partout au pays qui viennent raconter leur histoire. Puis il se rend encore plus compte à quel point ce combat-là doit être mené. Donc, en 1944, il réussit à rassembler 200 personnes. Puis ça, c'est une rencontre historique encore aujourd'hui.
Mmh.
Puis bon, à ce moment-là, il y a eu une scission dans le groupe. Il y a eu ceux qui pensaient qu'on n'allait pas assez loin, puis comme mon oncle. Puis il y a eu ceux qui voulaient vraiment traiter avec le gouvernement. Fait qu'il y a eu une scission à ce moment-là. Mais bon, tu sais, c'est quand même une grosse affaire. Puis là, de constater justement ce qui se passe dans les réserves, l'état des lieux, qui était, bon, jusqu'en 1940, la loi sur les Indiens n'arrêtait plus d'étouffer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y avait d'autres chats fouettés que de s'occuper, puis surtout qu'ils voulaient les envoyer au front.
J'ignorais complètement qu'à ce moment-là, les Autochtones, on les envoyait au casse-pipe, là,
comme
du côté de l'Europe, pour défendre une démocratie à laquelle ils n'avaient même pas accès.
c'est horrible. Puis de ça, en fait, Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne nous a pas appris ça, parce que c'est pas joyeux, ben, c'est pas beau. Tu sais, je veux dire, puis ce qu'on enseigne en ce moment, puis ce qu'on nous montre quand tu vas sur des sites, tout ça, c'est qu'on parle de ceux qui ont été volontaires. Mais là, ce que j'ai appris, c'est que les volontaires qui allaient, là, on m'a dit ça, il faut que je vérifie, là, mais les volontaires qui avaient souvent, ils arrivaient au bateau, ou en tout cas, ils s'inscrivaient, là, puis on leur demandait de signer leur demande d'émancipation pour devoir devenir citoyen canadien et pas aller se battre. Mmh. Donc, non seulement on les forçait à aller se battre, mais on les forçait à devenir citoyen canadien s'ils voulaient traverser l'autre côté. Donc, s'ils ne voulaient pas y aller, on les pénalisait. Mon oncle est allé en cours, il a dû payer des amendes parce qu'il ne voulait pas se conscrire, tu sais.
Est-ce qu'il y a eu un jour un régiment autochtone, comme il y en a eu pour les Noirs?
Aucune idée, c'est une bonne question. Je sais qu'on les engageait souvent parce que certains pouvaient parler des langues que l'ennemi ne pouvait pas comprendre, mais je n'ai pas fouillé cette histoire-là plus loin, mais c'est une super bonne question. D'ailleurs, dans le mouvement de mon oncle, il y a un des... En fait, et encore aujourd'hui, je pense que c'est l'Autochtone qui a été le plus décoré par l'armée, qui faisait partie du mouvement en 1944, 43-44.
Puis, ben, c'est ça, avec votre oncle Jules, c'est la petite histoire de votre famille qui rejoint la grande histoire des Premières Nations. C'est tout un mouvement de résistance que... on n'a pas appris dans nos livres. Moi, j'ai fait un moment donné une présentation sur ces résistances-là. Puis, en faisant mes recherches pour la présentation, j'ai appris plein de trucs que je me dis que j'aurais dû savoir, j'aurais dû apprendre à l'école.
C'est exactement tout le propos, en fait. C'est pas une leçon d'histoire pour les citoyens, dans le sens que les citoyens apprennent des choses, mais c'est pas de leur faute. Mmh. Ils n'ont pas appris à l'école. Moi, c'est une leçon d'histoire au gouvernement, puis c'est une leçon d'histoire aux historiens que j'essaie de donner. Tu sais, c'est-à-dire, hey, il y a une job qui n'a pas été faite à quelque part, puis là, il faut changer maintenant les programmes scolaires, parce qu'encore, moi, je rencontre des profs à tous les jours de ce temps-là, tu sais, les profs me disent merci parce qu'il nous manque tellement d'informations à donner. Si tu voyais ce qu'on reçoit du gouvernement comme pour donner pour les cours, on n'est pas à jour, là. On n'est vraiment pas à jour. Fait que, tu sais, quand on parle de racisme systémique, là, puis qu'il faut que ça parte d'en haut, comme le premier ministre Legault dit, là, ben, on en a un bel exemple, là, un très, très bel exemple de cette histoire-là n'est pas bien enseignée à l'école, puis on répète encore les mêmes choses. Oui, on enseigne les maisons longues, mais toute l'histoire du 20e siècle, les résistances, la loi sur les Indiens n'est pas enseignée, sauf si le prof a assez de connaissances pour en parler, puis qu'il s'est renseigné lui-même. C'est pas, tu sais, je comprends, c'est la job du prof en partie, mais il y a une job qui doit être faite en amont, puis en haut.
En quoi ça consistait, cette résistance-là, de votre oncle Jules?
Bien, en fait, donc j'ai parlé déjà du début du mouvement où ils rassemblent des gens parce qu'il y a des gens fâchés. Puis à partir de 1944, après la scission, mon oncle fait un gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord, que j'appelle amoureusement le Nya.
Il est bon d'un titre, donc, lui.
Ce mouvement-là, en fait, est très important parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui vont y adhérer. Il y a 2000 personnes qui vont acheter une carte d'identité que le mouvement a créée. Puis la carte d'identité, c'est sans doute l'affaire qui frappe le plus l'imaginaire parce que c'est un peu comme un passeport. Puis c'est un peu pour les Autochtones qui la possédaient, c'était un peu comme se réapproprier sa culture d'une certaine façon. C'était comme on sent qu'on n'est pas tout seul, fait qu'on résiste chacun de notre bord. Il y a toutes sortes d'histoires par rapport à cette carte-là, puis à ce mouvement-là qui va de la côte nord jusqu'en Gaspésie, puis qui va même jusque dans le nord de l'Ontario. Donc, le mouvement couvrait une grosse partie de l'est du pays.
Je trouve ça extrêmement important, ce que vous venez de dire. Là, je vais avoir l'air savant, mais c'est important qu'on en parle. Il y a le grand historien Toynbee qui disait que l'histoire, c'est pas de faire l'histoire du peuple bleu, ensuite faire l'histoire du peuple rouge, etc., dans l'histoire de l'humanité. En fait, les civilisations se chevauchaient. Hein? C'est de moins en moins rouge et de plus en plus bleu. C'est ça, une frontière. Est-ce que vous faites, et vous le dites très bien, vous voulez recoudre nos histoires, celles des allochtones, celles des autochtones, celles des immigrants, de tout le monde, et recoudre ces histoires-là ensemble, c'est là qu'on va se faire un vêtement historique intéressant. C'est ce que vous faites avec votre spectacle. Bien,
parce que on nous a fait croire que c'était des histoires indépendantes, puis même du côté autochtone, qui veulent recoudre leurs propres histoires pour la raconter, mais on ne peut pas faire fi que... il y a le Canada qui s'est dressé à quelque part là-dedans, puis ça a influencé toute notre histoire, tu sais, c'est comme le mammouth qui rentre, tu sais, je veux dire, il rentre dans la pièce, là. Tu ne peux pas faire comme s'il n'était pas là.
Jules a eu des problèmes juridiques à cause de tout ça, non?
Ah oui, c'est sûr, parce qu'après ça, ben après ce mouvement-là, on l'a accusé de fomenter une sédition, donc de trahison. Il s'est ramassé en cours, il a perdu son premier procès, gagné le deuxième en appel, puis là, ben, le mouvement, en voulant déposer en cause suprême le gouvernement, ben, il a provoqué la colère de mon oncle qui a commencé une grève la fin de 72 jours en 1950. Fait que ça a été vraiment ce qui a culminé son combat. Lui, ce qu'il souhaitait, c'est l'indépendance des Premières Nations. Imaginez, il demandait ça en 1950. Puis encore aujourd'hui, c'est d'actualité.
C'est drôle comme ça ressemble à du Louis Riel, là.
Oui, et en fait, je pense que son combat l'inspirait beaucoup. Je pense qu'il a lu beaucoup sur Louis Riel. Bon, là, j'ai pas de preuves, mais je sais qu'il était très au courant de ce combat-là. Puis c'est ça, puis dans sa façon de faire, de vouloir faire un gouvernement, de vouloir, donc, il suivait un peu les mêmes étapes que Louis Riel à l'époque. Puis le gouvernement a réagi de la même façon, c'est-à-dire l'accuser de sédition. Bon, bien sûr, il n'a pas été pendu, là. Les lois avaient changé, puis on ne traitait pas les affaires de la même façon. Quoique s'il avait pris les armes, ça aurait été différent, là, parce qu'il utilisait des moyens pacifiques, mon oncle. C'était un guerrier, mais un guerrier pacifiste. Il suivait les enseignements plus de Gandhi, ou tu sais, il se revendiquait de toutes ces choses-là.
Jocelyn, d'habitude, l'histoire avec les marionnettes, c'est des petites histoires bien cute, là. Vos histoires à vous sont pas cute, pantoute, là.
Ben. Bon, moi, je connais bien le milieu de la marionnette. Oui, il y a des histoires pour enfants bien cute, mais il y a des choses... En fait, la marionnette, ce que ça fait, c'est... Ça nous permet de nous détacher d'une certaine réalité, de rentrer dans une autre réalité, tu sais. Puis c'est touchant. À un moment donné, j'ai mon oncle dans mes mains, tu sais. Mon oncle qui fait la grève de la faim, j'ai un plus grand format, puis je le transporte sur moi. Je transporte mon oncle. Puis les gens sont extrêmement touchés par cette image-là. Donc, ça vient me permettre de faire des images très touchantes. Des fois, ça peut être très drôle aussi. Tu sais, je vais dans différents tons là, où je raconte des histoires graves, mais je raconte aussi des histoires comiques. Tu sais, dans le livre et dans le spectacle, c'est un peu le même ton que j'emploie. J'essaie d'utiliser l'humour le plus possible parce que je dis aux gens, c'est pas votre faute ce qui est arrivé. Tu sais, mm-hmm. C'est arrivé. Puis on la raconte. Puis des fois, il y a des trucs qui nous touchent.
C'est la fin de l'entrevue. Donc, on peut voir votre spectacle du 7 au 18 décembre. Au Théâtre du Périscope à Québec. On peut trouver l'histoire dans le livre aussi que vous avez produit. Est-ce qu'on pense à une mise en captation vidéo pour que ça soit accessible au plus de gens possible?
Je ne dis pas que ce n'est pas un projet. Il y a des choses qui sont en discussion. Je ne peux pas en parler maintenant parce que c'est vraiment juste un projet. Mais disons que j'essaie de tendre mes tentacules un petit peu partout.
Parce que c'est important que cette histoire-là soit connue par le plus de monde possible.
Exactement.
Et les marionnettes sont d'accord.
Ciao, ouais.
Ciao, ouais.
Petit Juan, maman, t'es man. Et tu tapes mine, n'est-ce qu'un Emmanuel, den, Emmanuel, you win. Angéniot, n'est-ce qu'un ouatit. Na chakwin mande yeteng Ya manjin yu ishanatan Utsun duel de mande ti in yu in Akwal nal dem teke tu tatnan Tishtesh dete onin gatayan Qua chi vince che tu dai A potere guardare il demam Mette tutto man in isce sciac Non è l'enne del daxin Mette un duel de man di ti in you Guanan tem te que tu tatnan Chistes de te un ninja tayan Aqua kiwin te que tu tak
Bob McQueen était le Dachshund. Marcel Dagren, Schwab McQueen. Mit und will der Mund die Newin. Aquanantum ticket to Tatnam. Just a stitter in Gatayan. Aqua Kiwi in ticket to Tatnam.
C'était Apu Chekwan, Manette Telamen de Nimuk Canapé.
L'équipe de chasseurs de sujets pour cette émission, Alexis Wawondelorat, Robert Blondin, Nicolas Wartman, Claire Guérin et Louis Garon. Bonne chance pour la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.